Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous fêtons cette année le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Je souhaiterais, à l'occasion de cet anniversaire, revenir sur l'histoire de la RFA et de la RDA, les fameuses Républiques fédérales d'Allemagne et la République démocratique allemande. Il se trouve que l'année 2009 correspond également à l'anniversaire de la création de ces deux États européens en 1949. C'était donc il y a exactement 60 ans, le 23 mai pour la RFA, le 7 octobre pour la RDA. L'Allemagne était désormais coupée en deux. Alors pour évoquer ces deux républiques au centre de la guerre froide, et je pèse mes mots, leur histoire, leur origine jusqu'à la réunification allemande, en passant bien évidemment par l'érection du fameux mur de Berlin, je reçois Georges-Henri Soutou. Georges-Henri Soutou, bonjour.
Bonjour, Christophe Guess.
Merci d'être revenu au micro de Canal Académie. Je dis revenu puisque nous avons enregistré plusieurs émissions ensemble. En revanche, c'est la première émission que nous enregistrons ensemble alors que vous êtes élu et donc membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Votre actualité littéraire, c'est la réédition d'abord de l'Europe de 1815 à nos jours, paru aux presses universitaires de France. Il y a un ouvrage qui est sorti l'an dernier également, l'URSS et l'Europe de 1941 à 1957, paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, éditeur-imprimeur depuis 1470. Et pour réaliser cette émission, je me suis inspiré largement d'un de vos maîtres ouvrages, La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest 1943-1990, un ouvrage paru chez Fayard, donc un ouvrage sur la guerre froide. Alors Georges-Henri Soutou évoquait la RDA et la RFA, c'est d'abord se plonger dans l'immédiat d'après-guerre. Nous sommes en 1945 et le sort de l'Allemagne a été décidé par la conférence de Potsdam. L'Allemagne, à terme, doit, selon ses accords, recouvrer sa souveraineté ?
Tout à fait. On envisageait, ce n'était pas dit de façon précise dans les accords, mais on envisageait qu'après une période de 2 ans, la dénazification, la démocratisation et la décentralisation et le désarmement de l'Allemagne, on recréerait un gouvernement allemand pour l'Allemagne toute entière. Il n'était pas question de la diviser en 45 et l'on conclurait avec ce gouvernement allemand, ce nouveau gouvernement allemand, un traité de paix.
Dans votre livre, vous qualifiez la période des années 1945-1946 d'ambiguë. Ce n'est pas la guerre froide, pourtant les tensions se multiplient.
Et elles se multiplient en particulier, et pas uniquement, mais en particulier à propos de l'Allemagne, parce que les deux camps qui commencent à se former, les Anglais, les Américains d'un côté, les Soviétiques de l'autre, les Français étant jusqu'en 1947 très hésitants, commencent à se rendre compte que Potsdam ne marchera pas. Pour une raison essentielle, les Occidentaux, Anglais et Américains, ne veulent pas rétablir l'unité politique allemande telle qu'elle avait été envisagée à Potsdam, tant que l'on n'aurait pas rétabli au départ l'unité économique de l'Allemagne. Or, les Soviétiques qui avaient rompu dès 1945 tous les contacts commerciaux, ou la plupart des contacts commerciaux entre leur zone d'occupation qu'ils exploitaient jusqu'à l'os, n'est-ce pas, et les zones occidentales, ne voulaient pas entendre parler d'un rétablissement de l'unité économique allemande avant la mise en place de la réunification politique. Les choses sont évidemment très claires. Les Américains, beaucoup plus riches, bien sûr, que l'Union soviétique, étaient convaincus que le rétablissement de l'unité économique de l'Allemagne jouerait finalement à leur profit et pas au profit des Soviétiques. Les Soviétiques, qui sur le plan économique n'étaient pas, bien sûr, bien placés, mais qui sur le plan politique contrôlait beaucoup mieux la situation encore à ce moment-là avec le Parti communiste allemand, avec certains syndicats, avec une influence qui s'étendait pas seulement dans leur zone d'occupation, mais par les syndicats, en partie également vers l'Allemagne de l'Ouest. Les Soviétiques étaient encore en 1946 convaincus, comme l'a dit Molotov à la conférence de Paris en juillet 1946, qu'une Allemagne unitaire et démocratique serait en fait du côté de Moscou.
Dans cette partie de l'Europe occupée donc par les soviétiques, est-ce que Staline finalement a une politique bien plus définie que le camp de l'Ouest, que le camp américain ou anglo-saxon?
Il y a certainement une politique plus définie, mais nous nous rendons compte que, comme il était fondamentalement prudent, il ne pouvait pas savoir comment les choses allaient évoluer finalement. Il a en tête plusieurs possibilités, et même depuis les grandes victoires soviétiques de 1943. Une possibilité, c'est une Allemagne unitaire qui serait, disons, très démocratisée, mais où les communistes joueraient un rôle, mais pas un rôle exclusif. Un peu le modèle de la France ou de l'Italie, d'ailleurs, jusqu'en 1947. Bon. Il a, d'autre part, bien sûr, un autre modèle, de plus en plus au fur et à mesure que l'armée rouge entre en Europe, en Allemagne, s'empare de Berlin et pousse vers l'Ouest, c'est celui d'une Allemagne qui serait tout entière communisée, avec le processus de communisation qui pourrait se réaliser finalement très rapidement. Et là, quand même, semble-t-il, un troisième modèle possible, même si ce n'est pas son modèle préféré. Il y a certainement pensé très tôt, en tout cas dès 1947 ou plus tard, l'obligation peut-être de diviser l'Allemagne. C'est-à-dire que la zone d'occupation soviétique serait communisée et zone d'occupation occidentale échapperait à l'influence soviétique, mais au moins l'Union soviétique conserverait de riches régions, conserverait la capitale historique du Reich, conserverait la Prusse, c'est-à-dire la partie la plus, disons, dynamique sur le plan politique de l'Allemagne moderne, et pourrait ainsi attendre des jours meilleurs pour reprendre un projet d'expansion du communisme vers l'Europe occidentale que Staline n'a jamais abandonné, même s'il était prudent par moments. Donc Staline sait mieux ce qu'il veut que les Occidentaux, mais il a quand même fondamentalement trois options possibles en 1945-1947.
Il y a un mouvement historiographique qui a expliqué qu'au fond, les Américains souhaitaient dès le départ avoir un État ouest-allemand. Rien n'est plus faux.
C'est tout à fait faux parce que les Américains, d'abord, savaient très bien qu'ils auraient dû, ce qu'ils ont fait finalement, mais au départ, ils ne voulaient pas investir considérablement des milliards de dollars pour soutenir l'économie allemande et les structures d'un État ouest-allemand, etc. Et d'autre part, les Américains se rendaient très bien compte que si on constituait une Allemagne à l'ouest avec les zones britanniques, américaines, éventuellement françaises, on laisserait les Soviétiques pleinement maîtres chez eux, alors que les accords de Potsdam essayaient de maintenir une gestion quadripartite de l'Allemagne. Et les Américains, qui n'avaient pas envie de voir les Soviétiques s'incruster définitivement en Europe orientale, savaient que l'Union soviétique serait très influente dans cette région et ne le contestaient pas. Mais ils ne voulaient pas une influence exclusive de la part de l'Union soviétique. Les Américains savaient très bien que si on laissait l'Union soviétique pleinement maîtresse du cours des choses en Allemagne de l'Est, eh bien la Pologne, la Tchécoslovaquie et tout le reste de l'Europe orientale ne pourraient pas du tout échapper à l'emprise soviétique. Donc les Américains ont mené une politique plus complexe que ce qu'on a dit, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas souhaité du tout au départ la division de l'Allemagne.
La division de l'Allemagne est une conséquence de la peur du communisme ?
La division de l'Allemagne est une conséquence de plusieurs choses. Alors, d'abord, il y a un niveau pratique, tout simplement technique. C'est que le système de gestion quadripartite mis en place à Potsdam ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'il supposait l'accord des quatre puissances occupantes au Conseil de contrôle à Berlin, qui très vite est à peu près impossible à obtenir parce que les Soviétiques font de l'obstruction. Donc, ça ne fonctionne pas. Administrativement, ça ne marche pas. Conformément, d'ailleurs, à ce que prévoyaient les accords de Potsdam dans ce cas-là, chaque pays occupant fait alors ce qu'il veut dans sa zone si on n'est pas arrivé à se mettre d'accord au niveau du Conseil de contrôle de Berlin. Ce qui signifie que dès la fin 1945, et en plus, encore plus en 1946, on voit dans la pratique les divergences et donc le début de la division. Bon. Puis, il y a un deuxième point qui est extrêmement important, c'est l'économie. Alors là, on rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où les Soviétiques ont coupé leur zone d'occupation de ses rapports économiques avec le parti occidental de l'Allemagne, eh bien, il n'y a plus de support matériel pour l'unité allemande. On est obligé de prendre des mesures pour le ravitaillement, pour les finances, pour la monnaie. C'est la grande réforme monétaire de 1948 à l'ouest de l'Allemagne, qui va certainement accélérer la division entre les deux Allemagnes. C'est une étape essentielle, n'est-ce pas ? C'est incontestable. Mais c'est la conséquence inéluctable. On ne peut pas laisser 60 millions d'Allemands mourir de faim, bien entendu. On les aide. En 1946, les Américains et les Britanniques ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour les nourrir, tout simplement. Mais ils ne peuvent pas indéfiniment nourrir 60 millions d'habitants qui ne font pas grand-chose. Pas seulement parce qu'il y a eu beaucoup de destructions, mais tout simplement parce que l'économie allemande n'a pas été reconstituée, n'a pas été reconstruite. Dès qu'on décidera de la reconstruire dans le cadre alors défini en 1949 de la République fédérale, ça ira très vite.
Donc la peur du communisme, je ne vais pas dire qu'elle vient après, mais c'est une
conséquence. La peur du communisme est une conséquence de bien des phénomènes. Elle est une conséquence, bon, bien entendu, il y avait déjà un anticommunisme aux États-Unis et ailleurs avant, enfin ça, c'est tout à fait net, mais la peur du communisme, après l'illusion de la guerre pendant laquelle on avait pensé pouvoir s'entendre avec, on sait, les Occidentaux, les Américains en particulier, avaient pensé pouvoir s'entendre avec Staline après la guerre, eh bien, cette illusion se défait en 1946 et encore plus en 1947 à cause de deux séries d'événements. Bon, les uns se situent vers la Turquie et l'Iran, ça c'est un peu en dehors du sujet, mais c'est dans la chronologie, ça vient d'abord, dès 1945. Et puis le deuxième grand facteur, c'est l'incapacité de s'entendre sur l'Allemagne. Avec, troisième facteur, le traitement infligé à l'Europe orientale qui montre que les Soviétiques ne sont pas prêts à accepter de partager le moins du monde le pouvoir avec les non-communistes.
Finalement, la France, en 1948, se rallie au point de vue américain et voit finalement ce danger soviétique avant ce qu'elle considérait comme le danger allemand. C'est aussi en 1948 qu'il y a la première grande crise entre l'Est et l'Ouest. Et Berlin en est le premier acteur.
Tout à fait, parce qu'il faut rappeler la situation de Berlin. Berlin était évidemment au milieu de ce qui est la zone d'occupation soviétique. Il y avait à Berlin quatre secteurs, un par pays occupant. Et les trois secteurs occidentaux étaient donc enclavés à l'intérieur de l'Allemagne de l'Est. Tant que l'on avait pensé que l'occupation, le régime de Potsdam durerait peut-être 2 ans, ce n'était pas très grave. À partir du moment où on commence à envisager que ça va durer plus longtemps, alors évidemment, les secteurs occidentaux de Berlin sont très dépendants de l'environnement dans la zone d'occupation soviétique pour leur ravitaillement, même l'eau, l'électricité, etc. Et les Soviétiques ont un moyen de pression par le blocus de Berlin qu'ils mettent en place fin juin 1948, qui doit normalement forcer les Occidentaux soit à retirer leur garnison, à évacuer Berlin-Ouest, donc à perdre la face et à perdre la partie en Allemagne, soit, et c'est ce que Staline propose d'ailleurs aux Occidentaux, soit à reprendre une négociation sur l'Allemagne avec Moscou, qui aurait évidemment donné à Moscou toutes les satisfactions que vous pouvez penser, c'est-à-dire le rétablissement de l'unité politique, bien sûr au bénéfice de Berlin, donc des Soviétiques, et ainsi de suite. C'est ça le grand enjeu. Bon, Berlin, c'est évidemment un enjeu direct, mais derrière Berlin, c'est toute la question allemande qui est en cause pendant toute la durée du blocus de juin 1948 à mai 1949. Les Occidentaux ont réussi à vaincre, si j'ose dire, le blocus sans guerre, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la faire. Et d'ailleurs, il n'était pas question de faire la guerre pour Berlin. Et Staline comptait là-dessus. Il pensait que les Occidentaux, finalement, s'inclineraient. Les Occidentaux ont réussi, ce qui était à l'époque une prouesse technique, à ravitailler Berlin, ravitailler modestement, mais enfin ça suffisait pour tenir, ravitailler les 2 millions d'habitants de Berlin-Ouest à l'époque, comme on commence à dire, par le fameux pont aérien, qui était quelque chose de tout à fait nouveau à ce niveau-là, en tout cas.
Il y a une véritable tension, vous décrivez d'ailleurs.
C'est une des premières grandes tensions de la guerre froide. Bon, Staline n'aurait pas laissé les choses aller jusqu'au bout de l'escalade possible, c'est évident, mais les premières mesures militaires sont prises dans ce cadre-là. On commençait dès le mois de mars, après la signature du pacte de Bruxelles, mais qui concerne l'Europe occidentale, à préparer une alliance occidentale avec les États-Unis qui va être l'Alliance Atlantique, le blocus de Berlin, juin 1948, mai 1949, ça correspond à peu près exactement à la chronologie de la préparation du pacte atlantique. Les deux sont très étroitement liés. C'est une épreuve de force majeure, fondamentale pour le destin de l'Allemagne et le lancement de la guerre froide. n'a pas mis en cause la paix comme aurait pu le faire la crise de Cuba, avec un risque nucléaire qui était certainement plus élevé. Mais enfin, politiquement, c'est la crise fondatrice de la guerre froide.
Et un succès occidental. Je reçois Georges-Henri Soutou, auteur de « La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest 1943-1990 ». Et nous évoquons l'histoire de la RFA et de la RDA. Nous nous retrouvons dans un instant.
À l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, Canal Academy a assisté pour vous à une série de conférences consacrées à la suspension d'armes, ou armistice, les plus importants de l'histoire moderne ou contemporaine de la France. Retrouvez les quatre interventions de Jean-Jacques Becker, Vincent Giraudier, le colonel Bieuville et Thierry Lenz sur le site de Canal Academy. Elles sont en libre écoute sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'histoire de l'Allemagne des années 45 à l'année 1990 qui voit sa réunification. Nous avions laissé nos auditeurs à l'époque du blocus de Berlin qui fut donc un succès pour les Occidentaux. Est-ce que la création de la RFA est le résultat de cette crise ?
Oui, en grande mesure, parce que, bon, c'est pas le seul facteur, c'est l'aboutissement d'une séquence commencée avec l'échec de la conférence de Londres de décembre 1947, où les quatre grands, comme on disait à l'époque, ont dû constater, alors là, définitivement, qu'ils n'arriveraient pas à accomplir les accords de Potsdam pour l'Allemagne. C'est la conséquence de la conférence de Londres du premier semestre 48, mais là, entre alliés occidentaux, qui aboutit au projet de constitution d'un État ouest-allemand. Ce sont les documents dits de Francfort de juin 1948 qui vont permettre de constituer une assemblée consultative qui sera l'Allemagne de l'Ouest, mais qui n'est encore que la somme des trois zones d'occupation occidentale. Et pendant la deuxième partie de l'année 48 et le premier semestre, ou les cinq premiers mois du premier semestre 1949, on met en place une loi fondamentale pour l'Allemagne de l'Ouest et on crée donc en mai 49 la République fédérale. Il est entendu que c'est une solution de secours.
On pense provisoire.
Provisoire pour les Américains. Et pour les Allemands, bien entendu, qui n'ont jamais mis, en tout cas pas à ce moment-là, et jamais tous d'ailleurs, enfin, que la division serait définitive. Ça n'a jamais été considéré comme définitif. Mais les Français, les Britanniques considéraient très nettement qu'après tout, si on avait deux Allemagnes, ça pourrait être une solution stable, qu'on ne pouvait pas officiellement déclarer définitive.
Ce n'était pas une aberration de concevoir deux Allemagnes.
C'est-à-dire que dans l'état où était le monde avec la guerre froide, on ne pouvait pas faire autrement, il faut bien dire. Ou bien ne constituait pas d'état ouest-allemand du tout. L'Allemagne de l'Ouest restait une simple zone d'occupation, ce n'était pas tenable à la longue. Ou bien, comme on ne pouvait pas refaire une Allemagne unitaire, les Soviétiques menaient leur propre politique, et que d'autre part, les Français et les Anglais n'y tenaient pas, la solution la plus commode, c'était l'Allemagne de l'Ouest. Pendant ce temps, les Soviétiques, évidemment, feraient leur Allemagne de l'Est, mais qui n'a pas du tout le même degré d'indépendance ou de substance par rapport à Moscou que la République fédérale ne va progressivement en acquérir à l'Ouest. Alors, pour les Allemands de l'Ouest, ils étaient parfaitement conscients que la création d'un État ouest-allemand compliquait, si on veut, la réunification, mais comme ils savaient très bien que la réunification n'était pas possible dans l'immédiat, pour eux, l'équation n'était pas celle-là. L'équation était avoir tout de suite un État ouest-allemand, je dirais libéral, démocratique, bon, et puis espérer qu'un jour, on pourrait étendre cette solution à l'ensemble de l'Allemagne quand la guerre froide serait, disons, ou gagnée ou arrêtée par, à la suite d'un accord Est-Ouest. Le choix n'était pas donc entre une Allemagne unitaire ou rien du tout. Le choix était entre une Allemagne de l'Ouest ou rien du tout. Ou alors, troisième possibilité, une Allemagne certes réunifiée, mais communiste. Et ça, les Allemands de l'Ouest, très très vite, quand ils ont vu la tournure que prenait l'occupation du régime communiste en Allemagne orientale, ont rejeté cette solution. En 45, ce n'était pas évident. En 45, on pouvait penser qu'une solution communiste pour l'ensemble de l'Allemagne ne serait pas du tout invraisemblable. Là, les socialistes allemands ont été évidemment déterminants, parce qu'encore en 46, ils souhaitent l'accord avec les communistes pour l'ensemble de l'Allemagne, mais la façon dont le Parti communiste est-allemand traite en 46 justement les socialistes est-allemands en les incorporant de force dans un parti unique dominé par les communistes, a fait basculer les socialistes ouest-allemands. Ils vont encore évoluer. Enfin, dès 1946-47, ils admettent la nécessité, pour le moment en tout cas, de créer un État ouest-allemand libéral et appuyé, bien sûr, sur l'Ouest. Donc, les Allemands comprennent très bien qu'ils n'ont pas le choix entre l'unité et l'occupation. Ils ont le choix entre une unité partielle libérale ou une unité totale, tout de suite, mais alors dans le communisme.
En face, il y a la création de la RDA. Nous restons donc en 1949. Est-ce que cette création est-elle parallèle à la création de la RFA, ou bien l'une est-elle la conséquence de l'autre, ou l'autre la conséquence
oui,
de l'autre?
Oui, alors il y a un peu, des deux, mais fondamentalement, elle est parallèle. Parce que vous voyez, dès 1945, l'introduction en Allemagne de l'Est de mesures économiques, nationalisation, réforme agraire, sociale, élimination progressive des partis, puis des éléments, enfin, dits bourgeois dans la terminologie de l'époque, qui conduit irrémédiablement à un autre type d'Allemagne. Alors, ou bien on arrivera à étendre ce type d'Allemagne à l'ensemble du pays, ou bien on se retrouvera avec une Allemagne de l'Est communiste. Alors, les soviétiques, s'étant toujours réclamé des accords de Potsdam, sont arrangés pour laisser la responsabilité de la création de l'Allemagne de l'Ouest, et donc de la division, d'une certaine façon, aux Occidentaux. Mais en fait, on pourrait démontrer que toutes les mesures concrètes qu'ils ont prises, qui devaient conduire à la création d'un État est-allemand, ont toujours précédé les mesures occidentales. Et ils ont joué habilement. Dans la réalité, ils ont anticipé. Dans l'apparence, ils ont laissé aux Occidentaux, y compris aux Allemands de l'Ouest, y compris au chancelier Adenauer, le premier chancelier de la République fédérale, la responsabilité, au moins en apparence, de la division. Alors, sur le fond, les soviétiques, comme les communistes est-allemands, sont quand même hésitants sur la meilleure solution possible. Il y a toujours l'idée, qui n'est pas remise en cause, que l'idéal, c'est une Allemagne tout entière communiste.
Mais vous utilisez d'ailleurs une expression qui est assez révélatrice. Vous dites que la RDA a été considérée un peu comme le piémont d'une Allemagne socialiste.
Exactement. Ce serait la cellule, le noyau
générateur.
Générateur, voilà. En même temps, on se rend bien compte que ce n'est pas aussi facile qu'on pouvait le penser, par exemple, pendant la guerre. Et Staline, je l'ai déjà dit, joue sur les deux tableaux, la division ou une Allemagne unifiée dans le communisme. Il se ménage les deux possibilités, c'est clair. Mais les dirigeants est-allemands aussi, ils sont divisés. Bon, certains gardent la foi, disons, de l'avant-guerre, la foi historique dans une Allemagne tout entière communiste. Ça, c'est Wilhelm Pieck, par exemple, le fondateur de la RDA, qui garde cet idéal. Et puis, immédiatement, ceux qui suivent, en particulier Walter Ulbricht, qui jusqu'en 71 va être le chef de l'Allemagne de l'Est, lui, c'est d'abord conforter l'Allemagne de l'Est. Parce que là, il est sûr de pouvoir contrôler les choses avec l'aide des soviétiques. Si on étend le communisme en réunifiant l'Allemagne, on risque de ne pas être en majorité dans l'ensemble de l'Allemagne et ne pas arriver à contrôler l'ensemble de l'Allemagne. Et là, de plus en plus, les Allemands de l'Est vont préférer bien contrôler leur petit truc plutôt que risquer d'être battus dans un ensemble regroupant toute l'Allemagne.
Alors, comme le temps passe très vite, Georges-Henri Soutoux, je vais passer la question du réarmement de l'Allemagne qui va se poser en 1954 avec l'échec de la CED. Vous parlez notamment en France du Parti communiste qui, en réponse à la volonté de réarmement allemand, se rapproche même avec certains membres du RPF. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. J'en viens plutôt immédiatement à Konrad Adenauer, et donc à cet effet de balancier en RFA, il y a des adversaires d'Adenauer qui pensent qu'il faut se tourner vers Moscou, et au fond, Adenauer apparaît comme visionnaire.
Adenauer a très clairement compris ce que je vous ai expliqué, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait dans les médias de réunification possible pour l'Allemagne que dans le communisme. Et il a fait le choix d'une Allemagne de l'Ouest non communiste, renvoyant la réunification à plus tard. Il n'y a jamais renoncé, contrairement à ce dont on l'a accusé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il était rhénan et pas prussien qu'il remettait ça en cause, mais c'était une étape future. qu'il pensait pouvoir voir arriver assez vite. Son programme, c'est au fond créer la République fédérale, la restaurer économiquement, améliorer son niveau de vie, tout ça fermement appuyé sur l'Occident, offrir à la zone d'occupation soviétique en Allemagne, dont on voyait bien les problèmes, la pauvreté, les difficultés, offrir ce que Adenauer appelait un aimant. C'est-à-dire qu'un jour, l'Union soviétique comprendrait qu'il était en fait de son intérêt de laisser tomber l'Allemagne de l'Est qu'elle n'arriverait jamais vraiment à contrôler, de laisser l'Allemagne se réunifier. Ça, Adenauer l'explique à différentes reprises. Il le croit possible assez vite après la mort de Staline en 1953. Il l'espère beaucoup. Bon, et l'idée étant que dans ce cas-là, on pourrait évidemment donner à l'Union soviétique des garanties de sécurité. Si l'Union soviétique acceptait la réunification allemande dans le cas d'élections libres, il n'était pas question de l'imposer par la force. Il y aurait eu un accord entre les quatre occupants pour que les Allemands procèdent à des élections libres dans l'ensemble de l'Allemagne, dont le résultat n'était pas douteux. 60 millions d'Allemands de l'Ouest, 17 millions d'Allemands de l'Est, dont beaucoup n'étaient pas communistes. Le résultat était donné d'avance. Mais on pourrait donner en échange à l'Union soviétique des garanties de sécurité. Bon, la seule chose, c'est que ce schéma, qui est au fond un peu celui de 89-90, si vous regardez bien, réunification dans le cadre d'élections libres, d'un accord entre les quatre, vous avez tous les éléments, il y a un certain nombre de garanties de sécurité. L'Allemagne a renoncé définitivement aux armes nucléaires et il n'y a pas d'unité de l'OTAN installée en dehors de l'armée allemande à l'est de l'Allemagne. Il y a ce nombre de garanties, n'est-ce pas, qui ont été données en 90, qui au fond correspondent à ce qu'Adenauer et certains dirigeants occidentaux avaient envisagé dès les années 50. Simplement, ce n'était pas un délai de 10 ans, c'était un délai de 40 ans.
Avançons dans la chronologie. 1953, c'est la mort de Staline. Quelle est la conséquence pour l'Allemagne ?
Alors la conséquence est immédiate. Il y a une lutte de succession à Moscou et elle n'est pas réglée avant 1955. Donc il y a différentes tendances qui s'affrontent. Il y en a une qui au début tient d'accord, c'est celle de Beria. Et Beria se rend compte que l'Union soviétique n'a pas les moyens de contrôler à long terme toute l'Europe orientale et l'Allemagne, tout simplement parce que ça lui coûte trop cher et n'y arrivera pas. Et Beria imagine la possibilité d'une réunification de l'Allemagne, mais d'une Allemagne neutralisée entre l'Est et l'Ouest, où les communistes est-allemands et leurs alliés en Allemagne de l'Ouest, puisqu'il y avait des partisans du communisme en Allemagne de l'Ouest, il y avait des syndicats, il y avait des éléments qui pouvaient jouer, jouiraient d'une influence suffisante dans une Allemagne réunifiée, neutralisée un peu entre l'Est et l'Ouest, pour que ça ne pose pas un problème de sécurité pour l'Union soviétique. La seule chose, c'est que les collègues de Beria au Politburo n'ont pas accepté cette formule. Ils ont dit, il est fou, il veut lâcher l'Allemagne de l'Est, il va perdre le contrôle sur l'Allemagne. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a été éliminé, Beria. Maintenant, c'est tout à fait clair. Il a été éliminé dès 1953, écarté du Politburo, arrêté, puis exécuté quelques semaines après. Enfin, peu importe le détail, la chronologie. C'est là-dessus que ça porte. Et à partir de ces événements de 1953, les dirigeants soviétiques se sont fondés sur les événements du 17 juin 1953 en Allemagne de l'Est. Car à la suite des hésitations de Moscou, des changements de cap à Moscou, des erreurs commises par le gouvernement est-allemand, la direction du parti est-allemand, il y a eu de très puissantes émeutes, une véritable révolte le 17 juin 1953 en Allemagne. Alors là, les choses sont claires. Les Allemands de l'Est n'accepteront jamais le communisme, ça c'est clair. Les Allemands de l'Ouest, après la répression qui a été très brutale...
C'est l'état de siège, oui.
Oui, ben, on a envoyé les chars, c'était très brutal. On ne sait pas encore aujourd'hui combien il y a eu de morts exactement, mais on sait que ça a été dans toute l'Allemagne de l'Est, et pas simplement à Berlin, ça a été très brutal. Les Allemands de l'Ouest disent, mais au fond, c'est Adenauer qui a raison. On n'a pas le choix entre la division de l'Allemagne et l'Allemagne unitaire, on a le choix entre la liberté ou le communisme. Et aux élections fédérales de septembre 1953, Adenauer, qui n'avait pas de réelle majorité jusque-là, triomphe. Donc là, les choses sont parfaitement claires. Les dirigeants est-allemands comprennent très bien que si on réunifie l'Allemagne, ils risquent leur tête à la suite de ces événements. Les soviétiques comprennent que ces idées un peu encore évoquées par Staline et par Beria, d'une sorte d'Allemagne influencée, contrôlée, mais dans un ensemble neutralisé, etc., sont en fait très dangereuses de leur point de vue, au moins à moyen terme. Et là, on se dirige vraiment vers la division à long terme de l'Allemagne.
C'est une cristallisation.
C'est la cristallisation de la crise commencée en 1945. Et là, les choses sont parfaitement claires. La République fédérale est considérée en 1949 comme provisoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que la loi fondamentale, pas une constitution, hein. c'est bien dit, que Bonn est sa capitale provisoire, tout ça est très clairement dit. On pourrait faire des remarques du même type pour la constitution est-allemande de 1949. À partir de 1953, on va vers la cristallisation que les Occidentaux ne reconnaissent pas officiellement, parce qu'ils ont toujours dit notre objectif, c'est la réunification de l'Allemagne par les élections libres, évidemment. Mais les Soviétiques, dès 1955, disent très officiellement, il faut reconnaître deux États allemands.
Peut-être, Jean-Jean Issoutou, quelques mots simplement, je dis simplement, parce que nous avons consacré une émission sur la crise de Berlin et la crise de Cuba, qui sont l'une et l'autre liées. Donc, quelques mots sur cette crise de Berlin de 1958-1961, qui aboutit en fait à la construction du mur de Berlin.
Alors, juste un point. Crise de Berlin, bon, il y a une tentative par Khrouchtchev de faire bouger les lignes, c'est-à-dire de faire reculer l'influence occidentale sur la République fédérale, non pas de réunifier l'Allemagne, en tout cas pas tout de suite, mais de pousser la République fédérale dans une sorte de neutralisme, en tout cas de l'écarter de l'Occident. Parce que Moscou craint, conjonction du potentiel économique ouest-allemand, c'est le miracle économique allemand à l'époque, avec le potentiel occidental, Moscou craint l'influence économique de plus en plus forte exercée à nouveau par la République fédérale sur la RDA. Il y a des contacts économiques qu'ils sont obligés de reprendre et Khrouchtchev craint de perdre par ce biais le contrôle sur la RDA. Donc il faut donner un coup d'arrêt. Khrouchtchev a un problème. Lui, il voit l'ensemble des relations est-ouest et l'ensemble du problème allemand. Ulbricht, en Allemagne de l'Est, qui est très têtu, voit le problème de l'Allemagne de l'Est. Donc Berlin se chancre au milieu de l'Allemagne de l'Est, où les Allemands de l'Est peuvent passer en prenant le métro, tout simplement, ou à pied. Et à partir de là, ils prennent l'avion pour l'Allemagne de l'Ouest. Et à la fin, en 61, Ulbricht perd 2000 habitants par jour. Des médecins, des ingénieurs qui vont pouvoir se réinstaller et gagner beaucoup mieux leur vie en Allemagne de l'Ouest. Donc, Ulbricht veut la survie de l'État est-allemand. Pour ça, il aurait voulu tout simplement éliminer Berlin-Ouest, réunifier Berlin-Ouest sous contrôle est-allemand. Khrouchtchev lui dit « ça, ça risque de conduire à une guerre nucléaire », ce qui n'était pas du tout impossible. Et le mur, ça va être un compromis. Le mur, ça va éviter de devoir absorber Berlin-Ouest en RDA, puisqu'on ne touche pas à Berlin-Ouest. Et en même temps, le mur de Berlin va empêcher la population d'Allemagne de l'Est de passer aussi facilement à l'Ouest. Sans le mur de Berlin d'août 61, la RDA n'aurait pas pu se maintenir très longtemps. Et on aurait assisté aux événements de l'été 89, quand tous les Allemands de l'Est commençaient à partir, bien plus tôt. Donc le mur a arrêté ça. En même temps, on n'est pas allé jusqu'à un risque de guerre, parce que Khrouchtchev n'a pas laissé faire Ulbricht, on a trouvé ce moyen terme. On a donc cristallisé la situation apparue depuis 1953, mais stabilisée désormais dans l'équilibre nucléaire de la guerre froide. Et à partir de ce moment-là, vraiment, la partition d'Allemagne et tout l'ensemble de cette situation est définitivement établie, ne bougera qu'en 1989.
Jean-Jean Issoutou, nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Academy lève le voile sur les boîtes cachées de la statue équestre d'Henri IV sur le Pont Neuf à Paris. Cette découverte vous est contée par Jean-Pierre Babelon de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Il vous dévoile le contenu de ces mystérieuses boîtes dans une émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Academy.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à l'histoire de la RFA et de la RDA, donc cette division de l'Allemagne. Je reçois Georges-Henri Soutou, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et pour réaliser cette émission, je me suis inspiré de son livre « La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest 1943-1990 », un ouvrage paru chez Fayard. Nous avons laissé nos auditeurs avec la crise de Berlin, donc, qui se termine par l'érection donc, du fameux mur. Et il faut attendre la fin des années 60 pour voir un tournant en Allemagne. Et ce tournant vient de l'Ouest, puisqu'il vient de Willy Brandt, qui commence à appliquer la fameuse Ostpolitik, cette Ostpolitik d'ailleurs qu'on retrouve également, j'allais dire, du côté du Vatican, avec la politique de Jean XXIII.
Et de Monseigneur Casaroli, absolument. Alors, Willy Brandt est maire de Berlin Ouest au moment de la construction du mur de Berlin Ouest. Et là, il comprend une chose, les alliés occidentaux ont protesté, mais ils n'ont pas réagi. Donc, ils ont accepté, alors corps défendant, mais enfin, ils ont accepté le mur, ils ont donc accepté le gel de la situation, et ils ont accepté, même s'ils ne le disaient pas ouvertement, la pérennisation de la division. Donc, Willy Brandt comprend que l'idée d'Adenauer, sur laquelle appuyer sur l'Occident et grâce à son rayonnement, l'Allemagne de l'Ouest pourrait changer les choses, cette idée, en tout cas pour le moment, a échoué. Alors il va entamer une autre stratégie qui est l'Ostpolitik. L'Ostpolitik se situe à deux niveaux. Il y a un niveau qui est tout à fait clair, qui est proclamé dans tous les discours, etc., et qui est immédiat. Puis il y a un niveau qui est à plus long terme, qui lui n'est pas proclamé de la même façon. Il faut aller un peu le chercher. Il est d'ailleurs plus discuté. Il est plus, à mon avis, il n'est pas hypothétique. Il est bien prouvé. Mais enfin, il n'est pas aussi évident que le premier. Alors, le premier niveau, c'est que la division se prolongeant, je vous rappelle qu'au départ, elle n'était pas prévue. Puis qu'en 1949, on pense que c'est une solution provisoire. Et puis, on doit changer d'avis à partir de 1955, encore plus de la crise de 1961. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'Allemagne est certes un pays qui a sa réalité, son unité, mais enfin, qui, quand même, a toujours connu des évolutions régionales. Et Willy Brandt et ses collaborateurs, une majorité de l'opinion ouest-allemande, ont l'impression qu'à la longue, les deux parties de l'Allemagne vont se séparer sur le plan économique, sur le plan psychologique, sur le plan politique, parce que progressivement, la RDA s'édifie. Qu'est-ce que vous voulez? Comme les Allemands de l'Est ne peuvent pas aller à l'Ouest, les liens familiaux sont pratiquement rompus. Bon. Et on craint que non seulement on ait perdu l'unité de l'État allemand, mais qu'on perde progressivement l'unité de la nation allemande. Alors ça peut paraître pour les Français assez curieux, parce que la remise en cause de l'unité nationale à la suite d'une division politique n'est pas possible, ça peut être que provisoire. Pour les Allemands qui ont connu dans leur histoire beaucoup plus d'années, disons, de division confédérale, ou plus ou moins, que d'unité centralisée,
l'État-nation.
C'est beaucoup plus... Bon. D'autre part, je pense juste un détail, quand vous preniez dans les années 70 un journal est-allemand et un journal ouest-allemand, ou quand vous regardiez la télévision des deux pays, la langue évoluait. Il fallait bien savoir l'allemand pour s'en rendre compte, mais ce n'était plus la même langue. On pouvait savoir rien qu'en écoutant la radio, et en dehors de toute annonce politique ou autre, dans quelle partie de l'Allemagne on se trouvait, rien qu'au ton des speakers. Les journaux, même un article qui n'indiquait pas l'origine de l'État en question, rien que le vocabulaire permettait de savoir où on était. Et Brandt sait très bien qu'il y aura deux États pour X temps, mais il faut au moins maintenir l'unité de la nation. Une nation allemande, deux États allemands, c'est son slogan, si vous voulez. Pour maintenir l'unité de la nation, il faut maintenir un minimum de liens entre les deux Allemagnes. Échange économique, échange humain, échange culturel. Pour pouvoir maintenir, ou plutôt rétablir ces liens qui avaient été coupés totalement depuis 1961, eh bien, il faut reconnaître, avec toutes les réserves juridiques, bien sûr, que vous imaginez, il faut reconnaître l'existence de l'Allemagne de l'Est. Parce que si on ne reconnaît pas l'Allemagne de l'Est, les dirigeants allemands de l'Est, qui savent très bien qu'ils risquent leur tête, ne vont pas accepter de s'ouvrir à l'Ouest. Si on les reconnaît, si on les conforte, là, ils vont accepter de s'ouvrir dans une certaine mesure. Bon. Ça, c'est l'Ostpolitik, traité de Moscou de 1972, donc accord avec l'Union soviétique pour la reconnaissance des deux États allemands. Traité de Moscou de 1970, pour se mettre d'accord avec Moscou. Traité fondamental entre les deux Allemagnes en 1972, pour réaliser ce que je vais vous dire, avec en même temps des traités avec la Pologne et la Tchécoslovaquie pour régler les questions de frontières, un peu dans le même esprit, si vous voulez. Bon, ça c'est la partie émergée, visible de l'iceberg. Bon. Puis il y a alors deuxième phase, parce que ça préserve la nation, si vous voulez, mais ça ne permet pas de réunifier l'Allemagne, ça préserve les conditions de l'avenir, mais ça ne résout pas le problème de l'avenir. Il est clair que la réunification n'est possible, mais ça, tout le monde était d'accord depuis les années 50, que si on donne à l'Union soviétique des garanties de sécurité, pour des raisons historiques, psychologiques, politiques, évidentes.
Donc il s'agit de réorganiser cette sécurité.
Alors il s'agit de réorganiser cette sécurité au niveau européen. Et c'est là, parce que l'Allemagne des années 60 et 70 n'est plus celle des années 50, elle n'a plus simplement l'obligation de suivre Washington, elle prend sa propre politique en main. Et les conseillers de Brandt lui-même, il est plus discret, mais il suit d'ailleurs prudemment, envisage une nouvelle architecture de sécurité en Europe qui, disons, pourrait se construire à côté du pacte de Varsovie à l'est et de l'OTAN à l'ouest, qui éventuellement pourrait conduire à la dissolution de ces deux pactes. C'est une structure de sécurité où les Américains ne seraient pas présents, hein, et qui permettrait à Moscou d'accepter à terme, pense-t-on à Bonn, la réunification, mais dans un ensemble de sécurité. Alors, le problème qui inquiétait beaucoup les Américains et les Français en particulier, qui comprenaient ça très bien, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que cette politique pouvait conduire à une sorte de condominium, au moins pour des affaires de sécurité en Europe, entre Bonn et Moscou, surtout si on écartait progressivement les États-Unis. Alors ça, c'est l'arrière-pensée. Willy Brandt ayant été obligé de quitter le pouvoir en 1974, son successeur Schmitt ayant été beaucoup plus prudent. Il n'a jamais totalement perdu de vue ses possibilités, mais il a été incontestablement beaucoup plus prudent. Son successeur, à partir de 1982, le chancelier Kohl, lui, était tout à fait contre cette idée d'un système de sécurité entre Européens sans les États-Unis, n'est-ce pas ? Ce qui fait que ça a échoué, mais ça a existé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si l'os politique n'a pas pu aller jusqu'à l'établissement d'un nouveau système de sécurité en Europe écartant les États-Unis, il y avait des partisans, et pas seulement en Allemagne. Au fond, de Gaulle, il pensait aussi à des choses de ce genre. Entre Paris et Moscou, pas entre Bonn et Moscou, si vous voulez. Mais enfin, il y a des idées du même genre. François Mitterrand, tout à fait à la fin, il essaiera de reprendre des idées un peu du même genre. Mais là aussi, entre Paris et Moscou, beaucoup plus qu'entre Bonn et Moscou. Bien entendu, chacun joue son jeu. Enfin, cette idée de sortir de la guerre froide par un nouveau système de sécurité européen, dans les années 70 et 80, était très présente. Donc cet aspect sécurité européenne de l'os politique, finalement, n'a pas été réalisé. En revanche, le premier aspect consistant à reconnaître certaines réalités, mais en les rendant vivables pour les Allemands, et en particulier l'accord sur Berlin de 1971, qui a réglé toute une série de problèmes techniques concernant la survie de Berlin-Ouest, qui était évidemment enclavée, tout à fait en l'air depuis 1961. C'est uniquement à partir de l'accord de 1971 que les communications entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest ont été juridiquement garanties. Avant, elle était à la merci d'une décision soviétique ouest-allemande, vous comprenez ? Bon, ça a permis effectivement de maintenir des liens des deux Allemagnes. L'Allemagne de l'Ouest a progressivement pris un ascendant croissant sur l'économie est-allemande, par les prêts, par les transferts de technologies, etc. C'est important. Les Allemands de l'Est essayaient de manipuler, mais enfin, quand même, globalement, ils passaient dans la dépendance ouest-allemande, tandis que l'économie soviétique était de moins en moins capable de les soutenir. Les relations humaines et culturelles ont permis de maintenir un certain nombre de contacts. Il n'y a jamais eu de rupture totale après l'os politique, alors que la période, je dirais, 61-71, ça avait été vraiment la glaciation. Et puis, si vous prenez la fin de la guerre froide, finalement, c'est Brandt, d'une certaine façon, qui a gagné, pas les Soviétiques. Les Soviétiques avaient accepté l'os politique parce qu'ils estimaient qu'ils allaient progressivement écarter l'Allemagne de l'Ouest et les Occidentaux. Willy Brandt a voulu l'os politique pour empêcher l'Allemagne de l'Est de dériver totalement. Alors, il l'a obtenu dans une certaine mesure, et d'autre part, je prends simplement l'accord sur Berlin. Il est très probable que Berlin-Ouest n'aurait pas pu survivre pour des raisons économiques, tout simplement, et démographiques, parce que la population commençait à partir vers l'ouest, s'il n'y avait pas eu cet accord de 71. Comment se serait faite la réunification en 89 s'il n'y avait pas eu Berlin-Ouest comme détonateur et réceptacle en même temps ? C'est très difficile à dire. Donc, même si l'os politique n'a pas remporté tous les succès qu'on espérait, évidemment, il y a eu quand même des effets qui, à long terme, ont été positifs pour la République fédérale.
À vous entendre, Georges-Henri Soutou, vraiment, la fin des années 60, le début des années 70, décide de ce qu'il va se passer en 89 et 90.
Oui, il y a beaucoup de choses.
C'est un tournant majeur.
Il y a beaucoup de choses, même si à l'époque, on n'en a pas du tout conscience, hein, parce qu'à l'époque, c'est la défaite progressive des États-Unis au Vietnam. À partir de 74-75, c'est une nouvelle phase d'expansion soviétique en Afrique, en Moyen-Orient, Afghanistan, etc. On a au contraire l'impression, on appelait ça le Panzerkommunismus, c'est pas le triomphe du communisme, par la force. Bon. Et puis, en fait, quand on regarde derrière, il y a toute une série de phénomènes. Ils sont de différentes natures. Le phénomène économique, l'Union soviétique a bénéficié du choc pétrolier parce qu'elle a pu vendre son pétrole et son gaz beaucoup plus cher. Mais d'une part, ça a créé disons, un déséquilibre dans son économie, ça a retardé le moment des réformes nécessaires. Et puis, il y a eu le contre-choc pétrolier de 1984, quand les prix sont descendus aussi vite et aussi bas qu'ils n'étaient montés vite et haut avant. Ce qui a mis à partir de 1984 l'économie soviétique en difficulté et a rendu l'Union soviétique incapable de continuer à soutenir les économies de l'Europe de l'Est, y compris l'économie est-allemande. Alors tous ces gens-là commencent à dévisser à partir de 80. D'autre part, les années 70, deuxième grand facteur, malgré toutes les difficultés des Occidentaux, sur le plan économique, choc pétrolier, etc., ont vu la mise en place de la révolution, informatique. Et à partir de ce moment-là, l'économie occidentale, les techniques occidentales sont passées dans une nouvelle génération que les soviétiques n'ont jamais pu rejoindre. Vous n'avez qu'à vous souvenir, quand apparaissent les ordinateurs de table individuels, même s'ils sont moins perfectionnés que ceux d'aujourd'hui, au milieu des années 80. Bon, je rédige ma thèse au milieu des années 80, j'ai presque failli déjà acheter un ordinateur à ce moment-là. Bon, et les procédés industriels, l'utilisation des robots informatisés, tout ça, c'est les années 70-80 également. Puis, troisième élément, alors là, beaucoup plus politique, psychologique, culturel, c'est la montée de la dissidence dans l'ensemble du bloc soviétique à partir des événements de 1968 à Prague, à partir de la conférence d'Helsinki de 1975, à partir du fait que les élites intellectuelles et politiques d'Europe orientale, et en partie en Union soviétique, commencent à évoluer, à se rendre compte qu'elles sont dans une impasse, et le rétablissement d'un minimum de liens avec l'Ouest apporte des réponses. On se rend compte qu'il y a d'autres formules possibles que le communisme, que même le communisme réformé à visage humain, puisque les soviétiques n'acceptent pas. C'est le coup de Prague de 68, si vous voulez. Puisque les soviétiques n'acceptent pas, eh bien alors on va aller carrément vers les formules expérimentées à l'Ouest, y compris la construction européenne, etc. Donc il se met là en place toute une série de structures. C'est très intéressant pour l'historien. Sur le moment, on ne se rend pas compte de tout ce que je vous dis. À l'époque, très peu de gens pensaient ça. Bon. Mais on se rend compte qu'au fond, comme vous l'avez fort bien dit, les événements de 89-90 sont l'aboutissement d'une évolution dont on se rend compte maintenant qu'elle a commencé beaucoup plus tôt.
Alors, 12 septembre 90, c'est le traité 2+4. Bon, je passe bien évidemment sur la chute du mur. On entend toutes les radios en parler en ces jours-ci. Je reviens à l'aspect géopolitique qui nous intéresse. Le 12 septembre 90, donc traité 2+4, et on renoue le fil de l'histoire. Et le traité 2+4, il est dans la lignée de Potsdam, ni plus ni moins, on revient 45 ans.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on reprend les éléments des accords de Potsdam, c'est dit expressis verbis, donc on réunifie l'Allemagne, c'était prévu, une Allemagne démocratique qui s'engage d'ailleurs par les accords à ne pas tolérer les partis totalitaires de droite, etc., tout ça est dit, une Allemagne, bon, pas totalement désarmée, mais qui renonce aux éléments nucléaires, chimiques, bactériologiques, tout ça est parfaitement... Alors, il y a deux éléments. Bon, bien entendu, il y a un élément juridique, parce qu'il faut trouver un cadre juridique. Si on n'avait pas pris l'accord de Potsdam comme cadre juridique, on était obligé de conclure un traité de paix. Et si on concluait un traité de paix, il fallait faire participer tous les adversaires de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, pas 30-40 pays, personne n'en avait envie. Donc, c'était un cadre juridique qui était commode. D'autre part, il y avait une arrière-pensée, d'abord du côté soviétique, aussi du côté anglais. Les Anglais viennent de publier des documents très intéressants qui montrent que Mme Thatcher était attachée à cette idée. Revenir à Potsdam, c'était revenir au contrôle des quatre sur l'Allemagne. Bon, les Américains pensaient qu'on avait dépassé ce stade. Mitterrand dit lui-même, bon, c'est une présentation des choses, mais enfin, ça ne compte plus, ça c'est secondaire. Mais enfin, ça a permis de trouver un cadre juridique auquel certains attachaient d'ailleurs une importance quasi mythique. Mais, dernier point, ça a permis de sauver la face de Gorbatchev, qui avait affaire à une forte opposition chez lui. Il a pu dire, même si c'était pas vrai, parce que l'Union soviétique a perdu la guerre froide, hein, c'est ça les accords de plus 4, mais ça lui a permis de dire, mais on ne fait qu'accomplir ce que l'Union soviétique avait obtenu en 1945. On l'accomplit maintenant, et à cause de la guerre froide, ça a été suspendu, mais maintenant on y est, donc nous ne rompons pas, nous ne trahissons pas, nous accomplissons. Bon, c'était, disons... plus cosmétique que réel, mais dans la situation très difficile de Gorbatchev en 90-91, il faisait feu de tout bois.
Je voudrais en venir, Georges-Henri Soutou, avant de laisser nos auditeurs, à votre conclusion. Affrontement, la guerre froide est à la fois un affrontement idéologique, une rivalité géopolitique, mais votre grande idée, c'est de la replacer précisément dans un processus européen général, un nouvel ordre européen tout simplement.
Oui, parce que au fond, l'Europe avait marché qu'à un quart au XIXe siècle à la suite des congrès de Vienne. Ce tendre s'était effondré avec la Première Guerre mondiale et à partir de ce moment-là, on tâtonne pendant près d'un siècle pour retrouver un nouvel ordre. Il a fallu pour cela évidemment éliminer les deux totalitarismes, car on ne peut pas envisager un ordre européen qui ne soit pas l'ordre national-socialiste ou l'ordre communiste, enfin un ordre véritable accepté par tous, si on ne commence pas par écarter les tentations et les régimes totalitaires.
Eh bien, merci Georges-Henri Soutou d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle les références de votre ouvrage que j'ai utilisé pour cette émission, La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest, 1943-1990, paru chez Fayard. Votre actualité littéraire également, c'est la réédition donc de L'Europe de 1815 à nos jours, une référence en la matière, paru aux presses universitaires de France. Il y a également L'URSS et l'Europe de 1941-1957, paru aux presses universitaires de Paris, Sorbonne. Je voudrais également mentionner le nouveau numéro de Diplomatie Magazine, géopolitique de l'océan Indien. Je crois savoir que vous avez participé à un ou deux numéros de Diplomatie Magazine. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.